Chapitre 7. Nicky est bien trop jeune pour regarder ça, affirma Robert.
Les décisions de Nakamura affecteront son existence autant que la nôtre, rétorqua Ali. Si elle tient à écouter ce discours, nous devons le lui permettre. Tu oublies qu'elle a vécu avec les octopodes.
Mais elle ne peut pas comprendre. Elle n'a même pas 4 ans. La locution télévisée n'avait pas commencé quand Nicky alla dire à sa mère
« Ça ne fait rien, maman. Je ne veux pas que tu te disputes avec papa. »
Un studio de télévision avait été aménagé dans le palais de Nakamura. C'était de cette salle que, 3 mois plus tôt, le tyran avait annoncé que des troupes seraient envoyées dans l'hémicylindre sud pour parer à la menace extraterrestre. Les journaux, contrôlés par le gouvernement, avaient depuis régulièrement communiqué des nouvelles du front en soulignant que les octopodes opposaient une résistance farouche. Mais ce serait la première fois que le dictateur parlerait directement à la population du conflit qui se déroulait dans le sud. Nakamura portait son costume de shogun, complété d'un sabre et d'une dague. Il avait annoncé à ses proches qu'il souhaitait apparaître dans cette tenue pour mettre l'accent sur son rôle de chef de guerre et de protecteur des colons. Il s'adressa à la caméra debout en fronçant les sourcils.
Au cours de ces derniers mois, nous avons fait d'importants sacrifices pour soutenir nos vaillants soldats qui affrontent au-delà de la mer cylindrique des monstres impitoyables. Nos services de renseignement nous ont informé que les octopodes, ces immondes créatures que le docteur Robert Turner vous a décrites après son héroïque évasion, projettent de lancer une attaque contre le Nouvel Éden. À cet instant où se joue leur avenir, les humains doivent renforcer leur détermination et rester unis face à leurs agresseurs. Nos stratèges nous conseillent de franchir la forêt qui protège le territoire de nos ennemis afin de les priver de tout ravitaillement avant qu'ils ne passent à l'offensive. Les modifications que nos techniciens ont apportées à nos hélicoptères nous permettront d'effectuer une telle intervention et de faire comprendre à ces créatures sanguinaires qu'elles ne peuvent s'en prendre à nous en toute impunité. Nos détachements occupent déjà tout le secteur de Rama qui s'étend jusqu'à l'orée de ces bois. Lors d'âpres batailles, nous avons éliminé de nombreux ennemis et leurs installations. Nos pertes ont été négligeables grâce à l'habileté de notre état-major et à l'héroïsme de nos soldats, mais il serait prématuré de crier victoire. Tout porte à croire que nous n'avons pas encore affronté leurs escadrons de la mort, ces troupes d'élite dont le docteur Turner a entendu parler pendant sa captivité. Voilà pourquoi nous devons frapper les premiers et réduire à néant le potentiel militaire de nos adversaires. Avant de terminer mon allocution, je préciserai que le traître Richard Wakefield et un octopode se sont présentés à un de nos postes avancés. Ils prétendent être mandatés pour négocier une paix durable, mais tout laisse présumer qu'il s'agit d'une ruse. Je compte entendre sous peu ces soi-disant négociateurs, mais soyez certains que je ne braderai pas notre sécurité et vous tiendrai informé des résultats de cette entrevue.
Tu sais que ce n'est qu'un tissu de mensonge. Les octopodes n'ont pas de troupes d'élite et ils n'ont pour l'instant opposé aucune résistance. Comment peux-tu laisser Nakamura t'attribuer des propos que tu n'as pas tenus ?
C'est de la politique, Ali. Personne ne croit vraiment.
Serais-tu aveugle, Robert ?
Il se dirigea vers la porte.
Où vas-tu ?
Je retourne à l'hôpital. Je suis de permanence. Elle le regarda s'éloigner, puis lui cria.
C'est ainsi que tu réagis. Un inconscient nous condamne tous à mort et toi, tu vas travailler.
Il revint vers elle. Bouillant de colère.
Ne recommence pas. Tu ne peux affirmer que les octopodes seront victorieux. Tu plaisantes ou quoi? Tu estimes que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dès l'instant où les événements ne t'affectent pas personnellement? Mais c'est de la lâcheté.
et si tu refuses d'agir, je m'en chargerai.
Que comptes-tu faire? Proclamer à qui voudra l'entendre que ton mari est un menteur? Tenter de convaincre les hommes que ces monstres répugnants sont pétris de bonnes intentions?
Personne ne te croira, et on t'arrêtera pour haute trahison.
Nakamura te fera exécuter, comme il fera exécuter ton père.
C'est ce que tu veux? Que Nikki soit privée de mère?
Elle lisait dans les yeux de son mari un étrange mélange de souffrance et de rage.
Je ne le reconnais pas. Ce n'est plus l'homme qui consacrait tout son temps à réconforter des malades qui se savaient condamnés.
J'y vais, déclara finalement Robert. Je rentrerai vers minuit.
Elle se rendit dans la chambre de Nikki, qui avait heureusement dormi pendant la dispute. Profondément déprimée, Ali regagna le séjour. Elle regrettait de ne pas être restée dans la cité d'Émeraude. Elle était revenue parmi les humains et ne savait que faire.
Tout serait tellement plus simple si je ne devais pas songer à l'avenir de Nikki.
Elle secoua la tête, puis cessa de retenir ses larmes.
Tu me trouves comment?
Demanda Cathy en faisant une pirouette devant Franz.
Encore plus belle que de coutume.
Elle portait une robe noire moulante dont le décolleté mettait en valeur un collier de diamants. Elle jeta un coup d'œil à sa montre.
Parfait. Pour une fois, je ne serai pas en retard.
Et elle alla prendre une cigarette sur la table basse.
Alors, j'ai le temps de te donner ma surprise,
dit-il en la suivant vers le canapé. Il lui présenta un écrin recouvert de velours.
Qu'est-ce que c'est?
Ouvre. Il contenait une bague ornée d'un solitaire.
Cathy, voudrais-tu m'épouser?
Elle le regarda, puis détourna la tête. Elle tira sur sa cigarette et souffla la fumée.
Je me sens flattée, vraiment. Mais nous irions droit à la catastrophe.
Elle se leva pour déposer un baiser sur sa joue avant de refermer la petite boîte et de la lui rendre.
Pourquoi? Tu ne m'aimes pas?
Si.
Enfin, je crois. Mais je ne suis pas une femme qu'on épouse.
C'est à moi d'en décider, il me semble.
Écoute, Franz, je préférerais reprendre cette conversation un peu plus tard. C'est aujourd'hui qu'a lieu l'audition de mon père et je suis incapable de penser à deux choses à la fois.
Tu trouveras toujours une excuse pour esquiver le sujet,
fit-il avec colère.
J'ai droit à une explication. Tu y tiens vraiment? D'accord. Suis-moi.
Elle le guida dans la penderie.
Regarde-moi bien, Franz.
Elle ouvrit le tiroir et prit une seringue et un garrot. Elle posa le pied sur le tabouret et remonta sa robe. Il détourna les yeux.
Non,
ordonna Cathy, en tendant le bras pour le prendre par le menton et faire pivoter sa tête.
Tu dois me voir tel que je suis.
Elle baissa son collant et noua la bande de caoutchouc autour de sa cuisse.
Ne comprends-tu pas, Franz? Je suis déjà marié à cette drogue. Tu n'es pas de taille contre un rival aussi puissant.
Elle piqua l'aiguille dans une veine, s'injecta le liquide, puis attendit.
Je pourrais peut-être m'en passer pendant quelques semaines, mais je remettrai ça tôt ou tard.
Elle essuya deux gouttes de sang avec un mouchoir et posa la seringue dans le lavabo.
Ne fais pas cette tête,
dit-elle à Franz en lui tapotant la joue.
Tu n'as pas perdu pour autant ta maîtresse? Je serai toujours à ta disposition pour satisfaire tes perversions.
Il fourra l'écrin dans une poche de son uniforme. Elle alla tirer une dernière bouffée sur la cigarette qui s'était consumée dans le cendrier.
« Bien, capitaine Bauer, il faut y aller. »
L'audition aurait lieu dans la salle de bal du palais de Nakamura. On avait disposé une soixantaine de chaises pour les invités. Le dictateur portait la même tenue de shogun que pour son allocution télévisée, et il était assis dans un grand fauteuil de brocart installé sur une estrade flanqué de deux gardes du corps vêtus en samouraï. La décoration de style japonais du XVIe siècle renforçait l'image de seigneur de la guerre que le tyran du Nouvel Éden voulait donner de lui. Richard et Archie arrivèrent, escortés par trois policiers qui leur ordonnèrent de s'asseoir sur de petits coussins posés à même le sol, 20 mètres en face de Nakamura. Cathy remarqua que son père paraissait là et très âgé. Un huissier annonça que l'audience allait débuter et demanda aux spectateurs de ne pas dire un mot. Puis, le tyran se leva et descendit en plastronnant les deux marches de l'estrade.
« Le gouvernement du Nouvel Éden a organisé cette audition afin de déterminer si nos ennemis extraterrestres sont prêts à accepter une reddition sans condition, préalable à toute cessation des hostilités. Si le renégat Wakefield, qui peut communiquer avec le représentant des octopodes, réussit à le convaincre de satisfaire à nos exigences, y compris la remise de la totalité des armes et l'occupation et l'administration des terres australes par nos troupes, nous serons magnanimes et commuerons sa peine capitale en réclusion à perpétuité. Mais si ce traître et son acolyte étranger se sont rendus à nos soldats victorieux dans l'espoir de saper insidieusement notre détermination, nous ferons un exemple. Nos ennemis doivent savoir que les citoyens du Nouvel Éden opposeront une résistance farouche à leur visée expansionniste. »
Nakamura, qui s'était adressé à l'ensemble de l'assistance, se tourna vers les prisonniers.
« Monsieur Wakefield, l'extraterrestre qui vous accompagne est-il mandaté pour parler au nom de tous les siens ?»
Richard se leva.
« Oui. » « Est-il disposé à ratifier la capitulation sans condition qui vous a été présentée ?»«
Nous en avons pris connaissance il y a seulement quelques heures, et nous n'avons pas eu le temps d'analyser tout son contenu. »
« Ils veulent gagner du temps !»
gronda Nakamura en s'adressant à la salle et en agitant un bout de papier.
« Tous les termes de l'accord figurent sur cette simple feuille !»
Il se tourna de nouveau vers les captifs.
« J'exige une réponse. Est-ce oui ou non ?»
Des bandes de couleurs défilèrent autour de la tête d'Archie et les spectateurs murmurèrent. Richard se chargea de traduire ses propos.
Les octopodes veulent savoir ce qui se passera s'ils acceptent. Ce n'est pas spécifié dans ce document.
Premièrement, tous leurs soldats devront déposer leurs armes et se constituer prisonniers. Deuxièmement, le gouvernement ennemi aura l'obligation de nous remettre un inventaire complet de tout ce qui se trouve sur son territoire. Troisièmement, il annoncera à la population que nos troupes occuperont la colonie et que tous devront collaborer avec nous, militaires et simples citoyens.
Richard et Archie eurent une brève conversation.
Quel sort réserverez-vous aux octopodes et aux créatures qui contribuent à la prospérité de leur société?
Ils pourront reprendre une existence normale. Sous certaines conditions, cela va de soi. Nous assurerons la gestion des territoires occupés.
Seriez-vous disposé à ajouter un paragraphe où vous vous engageriez à garantir la vie et la sécurité de tous ces êtres s'ils ne troublent pas l'ordre établi ?
Nakamura ferma les yeux à demi.
À l'exception des responsables de l'agression perpétrée contre nous, naturellement. Mais ce sont de simples points de détail qu'il serait superflu d'inscrire dans ce document.
Richard et Archie s'entretinrent plus longuement. Cathy observait son père et elle eut l'impression qu'il était en désaccord avec son ami, mais il finit par hausser les épaules. Cette interruption irritait visiblement Nakamura,
qui déclara
« Je vous ai laissé un délai suffisant. Quelle est votre réponse ?»
Des couleurs défilaient sur le pourtour de la tête d'Archie. Quand il eut terminé, Richard s'avança d'un pas pour dire «
Les octopodes veulent la paix et souhaitent mettre un terme à ce conflit. Ils ne sont pas du genre à ratifier un traité dans le seul but de gagner du temps. Mon compagnon ne peut prendre un tel engagement sans savoir si cet accord est équitable et si ses semblables en accepteront toutes les clauses. »
« Nous ne vous avons pas demandé de faire un discours !»
lança Nakamura.
« Répondez à ma question !»«
Nous avons été mandatés pour négocier une paix honorable et non pour capituler sans condition. Si vous refusez d'entamer de véritables pourparlers et de donner aux octopodes des garanties sur leur avenir, vous ne leur laissez pas le choix. »
Il se tourna vers les spectateurs pour crier «
Les humains ne pourront pas vaincre ce peuple, qui ne leur a jusqu'à présent opposé aucune résistance. Vous devez convaincre vos chefs de négocier.
Emmenez les prisonniers,
ordonna Nakamura.
Sinon vous périrez tous. Les octopodes sont bien plus puissants que nous. Croyez-moi, j'ai vécu.
Un policier le frappa à la tête et il s'effondra.
Cathy se leva d'un bond. Mais Franz la retint.
Richard couvrait sa tempe ensanglantée de sa paume quand ils furent escortés hors de la salle. On les enferma dans une des cellules du poste de police d'Akone, non loin du palais de Nakamura.
« Rien de cassé ?»
demanda Archie.
« Je ne pense pas, mais la bosse grossit encore.
Ils vont nous tuer, pas vrai ?»«
C'est probable. »
« Merci d'avoir essayé »,
ajouta l'octopode après un court silence.
« Ça n'a servi à rien, et c'est vous qu'il faut remercier. Si vous ne vous étiez pas porté volontaire, vous seriez en sécurité dans la cité d'Émeraude. »
Richard alla vers le lavabo pour rincer le linge qu'il appliquait sur la plaie.
« N'avez-vous pas dit que la plupart des hommes sont convaincus qu'il y a une vie après la mort ?»«
Sans qui, Archie ?»«
Si. »
Certains croient qu'ils se réincarneront sous forme humaine ou animale.
D'autres pensent que s'ils ont été bons, ils seront récompensés par une vie éternelle dans un lieu magnifique appelé le paradis.
Et vous ?
Richard sourit et s'accorda un temps de réflexion avant de répondre.
J'ai toujours été convaincu que ce qui fait de nous ce que nous sommes disparaît quand nous mourons.
Bon. Nos composants sont recyclés et se retrouvent dans d'autres créatures vivantes, mais il n'y a pas de continuité. Je n'ai jamais cru que nous possédions une âme.
Il rit. À présent que mes heures sont comptées, une voix intérieure m'implore d'embrasser une de ces croyances, au cas où. Cependant, une conversion de dernière minute serait contraire à mes principes.
Il alla refermer les mains sur les barreaux qui séparaient la cellule du couloir.
Et pour vous,
qu'y a-t-il après la mort ?
Les précurseurs nous ont enseigné que toute vie a un début et une fin. Nous ne sommes que les composants d'un ensemble. Ce qui importe, c'est la continuité et le renouveau. Chaque individu est immortel parce que sa vie constitue un maillon culturel et génétique d'une chaîne sans fin. Quand ils nous ont sortis de l'ignorance, les précurseurs nous ont appris à ne pas redouter la mort, car elle participe de ce qui s'ensuit.
Votre fin prochaine ne vous inspire donc ni peur, ni regret ?
Ce serait plus facile si j'avais près de moi des amis symbolisant le renouveau autorisé par ma disparition.
Richard alla le prendre par les épaules.
Nous avons notre soutien réciproque, et nous savons que nous avons tenté d'empêcher une guerre qui fera des milliers de victimes. Il n'existe guère de cause.
Il s'interrompit en entendant la porte extérieure s'ouvrir. Le capitaine de la police locale et un de ses hommes s'écartèrent pour laisser entrer deux Garcia et deux Lincoln. À peine Richard eut-il le temps de constater que les biottes étaient gantées, que la lumière s'éteignit.
Il y eut des bruits de lutte, un hurlement, la chute d'un corps contre les barreaux. Puis ce fut le silence.
Garde à l'esprit que c'est un simple responsable de district, Franz,
dit Cathy en poussant la porte du poste de police.
Il ne peut empêcher de voir les détenus.
Ils entrèrent quelques secondes après que les deux policiers eurent refermé la cellule derrière les quatre biottes.
Capitaine Miyazawa, je suis le capitaine Franz Bauer du QG, et je viens voir les prisonniers. J'ai reçu l'ordre de ne laisser entrer personne.
La pièce fut soudain plongée dans l'obscurité.
Que se passe-t-il ?
Demanda Franz.
Un fusible a dû sauter, dit Miyazawa. Allez vérifier, Westermark.
Ils entendirent un hurlement, puis, après ce qui parut durer une éternité, une porte qui s'ouvrait et des bruits de pas. Trois biottes sortirent du bâtiment à l'instant où la lumière revenait.
« Regarde, Franz !»
s'exclama Cathy.
« Du sang ! Ils ont du sang sur leurs vêtements ! Je dois voir mon père !»
Elle s'élança dans le couloir et distança les trois policiers.
« Oh mon Dieu !»
s'écria-t-elle en voyant Richard qui gisait au milieu d'une mare de sang.
« Il est mort ! Mon père est mort !»